Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là, aussi nombreux. Je suis Azar Kaladbari et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde. Alors, si je peux avoir le droit de m'exprimer moi aussi en tant que modératrice, quand j'ai vu arriver ce titre, j'ai pris peur parce que l'univers, c'est tout. Qu'est-ce qui reste d'autre ? D'autres questions, c'est pas possible après ça. Et en plus, l'univers avant et après, c'est vraiment un très, très vaste programme. Alors, pour en parler, donc, Gérard Klein, que je ne présente plus, tout le monde le connaît comme expert. Marc Lachaiseraie, à côté de lui, qui est astrophysicien. Roland, que je ne présente plus non plus. Et Raphaël Granier de Cassagnac, qui est physicien des particules et aussi auteur de science-fiction. Donc, voilà. Alors, j'ai tout de suite envie de demander, d'interroger sur ce titre, parce que est-ce que ça a un sens que de parler d'avant et d'après l'univers ? Est-ce qu'on peut parler du temps avant, du temps après ? Voilà. Est-ce peut-être la science-fiction nous permet d'y apporter une réponse ? Et puis, on va d'abord examiner cet aspect-là, et après, je vais demander à Marc, peut-être, d'apporter la réponse des astrophysiciens. Gérard.
Bon, je crois que je ne vais pas tellement parler, d'ailleurs, de ce sujet à partir de la science-fiction, parce que la science-fiction, bon, autant que je sache, et je la connais un peu, ne l'aborde pratiquement pas. En revanche, je viens de commettre avec Jean-Pierre Farabaud un ouvrage qui m'a pris 2 ans sur la physique quantique, sujet qui m'a toujours, qui me passionne depuis très longtemps. J'ai eu le privilège à l'Institut d'Optique d'Orsay d'être là quand Alain Aspect faisait ses expériences sur la non-localité. Donc je prendrais plutôt là sous l'angle, cet angle-là d'un avant, sous l'angle de la physique quantique. Et sous le contrôle de mes amis experts beaucoup plus compétents que moi. D'abord, cette question, elle interroge parce qu'elle revient un peu à se demander qu'est-ce qui est plus au nord que le pôle nord. Mais on peut imaginer, avant notre univers, on verra ensuite après, un monde, je dis bien un monde, pas exactement un univers, purement quantique, où il n'y a ni temps ni espace, parce que ne s'y trouve que des particules virtuelles, dont la durée ou l'espace sont inférieurs au temps de Planck, enfin, et aux longueurs de Planck. On peut imaginer que ces particules sont toutes intriquées. Donc, il n'y a ni espace ni temps. Mais il y a néanmoins ces particules virtuelles qui ne sont pas observables, à supposer qu'il y a un observateur, comme dans notre univers. En physique quantique, tout ce qui n'est pas interdit est possible. Donc, il est possible qu'une de ces particules, ou même plusieurs, mais enfin disons une pour faire simple, prennent des dimensions excessives et qui la font sortir des limites du temps de Planck et de la longueur de Planck, donc qui font émerger au travers de cette particule un univers qui commence à ressembler au nôtre. Et puisque toutes ces particules sont intriquées, dont la densité et la chaleur, si on peut s'exprimer ainsi, sont colossales, si bien que commence une expansion qui donne naissance à ce que nous appelons un peu naïvement le Big Bang, enfin à notre univers. Enfin, voilà comment je vois les choses. à l'autre bout de l'univers, puisque il y a aussi l'après, se passe un phénomène en quelque sorte à mes yeux symétrique, c'est-à-dire l'expansion. Et il y a le problème de l'énergie, enfin de la force qui provoque cette expansion. Arrivant à son terme, il n'existe plus de particules. Il n'existe plus que des particules quantiques virtuelles. Donc il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Et ça peut repartir pour un tour. Bon, je vais essayer d'être bref. J'aurais eu beaucoup de précisions à apporter.
C'est un scénario assez complexe. Il me semble qu'au début, c'était une description du vide quantique. Peut-être, Marc, tu peux compléter ce tableau ou donner le point de vue plutôt de l'astrophysique.
Oui, bien sûr. Bon, ça dépend un peu de ce qu'on appelle l'univers, mais disons que...
J'ai parlé d'un monde quantique.
D'un monde quantique, oui, d'accord. Antérieur à l'univers. Bon, mais si vous voulez, il y a une définition opérationnelle de l'univers, qui n'est pas forcément la seule, mais qui, en gros, est celle qu'utilisent les physiciens, qui est l'ensemble de tous les événements qui se produisent, qui se sont produits et qui vont se produire, y compris les événements quantiques. Donc, si on veut prendre ça au sens strict, ça veut dire que cette possible ère quantique dont vous dites qu'elle est avant le monde, et avant le monde, disons, avec l'apparence qu'il a aujourd'hui, d'une certaine manière, elle fait partie de l'univers, et même, elle en fait forcément partie, puisque, en fait, dès qu'il y a du temps, l'univers existe.
Et temps, non, c'est pas mon monde quantique.
Ah, ben si, parce que vous avez parlé de la durée des particules, voilà. Vous avez parlé d'un moment où, d'un coup, une particule se met à grossir. Donc, s'il y a un moment, c'est qu'il y a du temps, et c'est bien
mais
le problème.
Avant, il n'y a pas de temps.
Bon. Soit. Donc, mais si vous voulez, l'univers aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? On le décrit d'une manière assez précise. Si vous voulez, c'est l'ensemble des événements et il a une structure géométrique qui est exprimée par les théories de la relativité générale, par exemple, qui est ce qu'on appelle l'espace-temps, avec une géométrie bien précise, certaines propriétés bien précises. Donc ce qu'on appelle le temps et qui permet de définir la chronologie, c'est-à-dire quand on parle d'avant et d'après, c'est quelque chose qui est situé dans le temps, ou en tout cas dans l'espace-temps. Et si on voulait parler d'avant l'univers, ça voudrait... Il y a une contradiction dans le terme, parce que puisqu'on parle d'avant l'univers, ça veut dire avant l'existence du temps, mais avant l'existence du temps, par définition, il n'y a pas d'avant et d'après. Donc c'est pour dire qu'il faut faire très attention à la définition des concepts et ça veut dire que cette notion de temps, enfin cette notion de chronologie même, pour être plus exact, parce que la chronologie, ça ne se confond pas tout à fait avec le temps, mais la notion de chronologie qui permet de manipuler les notions de avant et après, elle ne s'applique pas à l'échelle de l'univers. Autrement dit, la question, elle n'a pas de réponse. Enfin, elle a la réponse qu'avant l'univers, il n'y a rien. Après l'univers, il n'y a rien. Alors, maintenant, on peut prendre les choses... Ça, c'est ce que dit notre physique d'aujourd'hui. Mais peut-être que notre physique d'aujourd'hui, enfin, beaucoup de physiciens le pensent, n'est pas le dernier mot et qu'il pourrait y avoir, par exemple, une physique, une cosmologie quantique, une théorie de gravité quantique. Et dans ce cas-là, c'est vrai que, déjà, la notion de temps, il faut se rendre compte que dans notre physique, elle n'existe plus. On en a déjà parlé dans d'autres tables rondes. Elle est absente de nos théories de la relativité générale. C'est remplacé par la notion d'espace-temps. Néanmoins, on peut quand même définir, non pas une chronologie, mais une causalité. Donc, les questions, on peut leur donner un petit peu un sens, définir les mots avant et après dans l'univers. C'est-à-dire, le Big Bang, par exemple, s'est déroulé avant, dans un certain passé. On peut donner un sens à tout ça. Et ce vers quoi tendent les physiciens qui travaillent sur la cosmologie ou la gravité quantique, c'est une description d'un univers qui n'aurait pas du tout les mêmes caractéristiques que le nôtre, c'est un peu ce dont vous avez parlé, et où les notions non seulement de temps et d'espace disparaîtraient, en fait elles sont déjà disparues de la physique, mais où celle d'espace-temps, on ne peut pas dire qu'elle disparaîtrait complètement parce qu'il faut bien qu'il y ait un cadre, mais en tout cas elle serait différente, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un espace-temps que l'on pourrait dire géométrisé, qu'on représente aujourd'hui par des outils mathématiques bien précis, ça pourrait être simplement quelque chose qui serait discret, qui serait fluctuant. Enfin, disons que les idées actuelles sur la gravité ou la cosmologie quantique ont des objets mathématiques, manipulent des objets mathématiques qu'on pourrait appeler des géométries fluctuantes, des géométries quantiques, des géométries discrètes, etc., qui sont assez bien définies et qui n'ont pas encore les caractéristiques de notre univers. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, et c'est comme ça un peu que j'interprète ce que vous avez dit, c'est qu'il y a très longtemps, c'est-à-dire à l'époque où il y a 50 ans, ou il y a un siècle, on parlait de Big Bang, maintenant les physiciens croient plus beaucoup à l'idée de Big Bang telle qu'on la décrivait il y a un demi-siècle, c'est-à-dire une sorte d'explosion à partir d'une concentration complètement extrême, mais il croit plutôt qu'il y a eu ce qu'on appellerait une ère de gravité quantique ou de cosmologie quantique où les effets quantiques se mêleraient à la gravitation. Ce qu'on ne sait pas encore décrire aujourd'hui, mais où l'on pense que les dernières notions qui subsistent aujourd'hui, c'est-à-dire celles d'espace-temps, après que l'espace et le temps aient eux-mêmes disparu, que même cette notion n'aurait pas cours. Autrement dit, on pense qu'avant la période de l'univers que nous décrivons par ce qu'on appelle les modèles de Big Bang, il y aurait pu avoir une période quantique. Alors, évidemment, on pense que les notions de temps et d'espace-temps devraient disparaître, mais ça pose un problème qui n'est pas du tout nouveau, un problème qu'avait déjà finalement posé saint Augustin, c'est-à-dire que si on est dans une phase de l'univers où le temps n'existe pas, comment imaginer qu'à un certain moment, l'univers se mette dans la phase où le temps existe ? Hein, on ne peut pas parler d'un moment, parce que si le temps n'existe pas, il n'y a pas de moment, tout est atemporel. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait un moment où l'univers se mette en marche, si vous voulez, avec le temps qui commence. Donc il y a une espèce de contradiction là-dedans. Et pardon ?
Pas d'accord, je n'ai pas la contradiction. Elle est verbale, la contradiction.
Si vous voulez,
elle n'est pas dans le concept.
Les physiciens essayent de construire des théories qu'on appelle cohérentes, c'est-à-dire qui sont indemnes de contradictions logiques. C'est-à-dire que quand on construit une théorie, on essaye qu'il n'y ait pas de contradiction logique dans cette théorie. Et on y arrive quelquefois, et quelquefois on construit une belle théorie, et on s'aperçoit qu'il y a des contradictions. Donc on l'abandonne, parce que ce n'est même pas la peine de la tester. S'il y a une contradiction, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça n'empêche qu'on essaye. Bon, par exemple, il y a des modèles de gravité quantique qui sont très subtils, où vous avez un univers qui est là. On dirait comme si vous aviez un bloc de matière. Et puis d'un côté de ce bloc de matière, le temps n'existe pas, mais il y a quelque chose qui existe de manière atemporelle, de l'autre côté aussi. Sauf que dans ce côté-là, les êtres qui peupleraient ce côté-là, qui sont par exemple des gens comme nous, auraient une manière d'explorer ce bloc de substance d'une manière qui serait temporelle et qu'on appellerait le cours du temps. C'est la seule manière que je vois de parler d'une sorte d'avant de l'univers qui serait un état atemporel, parce que, encore une fois, dans un état atemporel, on ne peut pas parler d'un instant où le temps se mettrait en marche.
Voilà. Cette ère quantique, en fait, ferait réellement partie de l'univers.
Alors, ça dépend ce qu'on appelle l'univers, parce que effectivement, l'univers, d'une certaine manière, on le définit, les physiciens le définissent comme tout ce qui existe. Mais qu'est-ce que ça veut dire exister ? D'une certaine manière, ça veut dire qu'il peut y avoir un rapport causal avec nous. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent d'autres univers. Mais alors, deux choses l'une, ou bien ces autres univers, il y a un contact avec, c'est-à-dire on peut recevoir quelque chose depuis eux, ils nous envoient un petit peu d'informations. Dans ce cas-là, ce n'est pas des autres univers, c'est des parties lointaines, difficilement accessibles de notre univers. Ou bien on n'a aucun contact, on ne peut rien recevoir, aucune information, et dans ce cas-là, ça ne fait pas partie de la physique, parce qu'on ne peut faire aucune observation, on ne peut faire aucune expérience. Donc ça, c'est les univers que vous avez dans vos romans, dans vos films, dans vos jeux vidéo. Tout ça, on peut les appeler des autres univers, mais ça ne ressort pas du... Ça n'est pas du domaine de la physique. Donc la notion d'autre univers, elle n'a pas cours en physique. Alors aujourd'hui,
est-ce que néanmoins, ce n'est pas en contradiction avec les principes de la physique ?
Quoi donc ? L'existence d'autres univers ?
C'est un univers parallèle.
Oui, parce que si vous voulez, la physique est née avec la notion
testable,
d'univers.
Mais est-ce que
la physique est née avec Newton, la physique moderne. Non, mais je parle trop, excusez-moi. Mais la physique est née avec Newton, avec justement l'introduction de la notion d'univers. Parce que ce qu'a dit Newton, c'est qu'il y a des lois universelles. Il a donné la première des lois universelles, qui est la loi de la gravitation universelle. Le mot universel est très important. Pour qu'une loi soit universelle, ça veut dire qu'elle est valable toujours et partout. Qu'il y a donc une espèce de lieu très grand, qu'on appelle justement l'univers, qui est garant de cette universalité et qui est unique. Et si vous pensez qu'il y a un autre univers, bah vous n'êtes plus dans le cadre de la physique. Vous faites autre chose. Vous faites de la fantasy, de la science-fiction. C'est très bien, c'est très intéressant. Mais ça n'est plus de la physique. C'est autre chose. Donc cette notion d'univers parallèle, d'autres univers, on s'aperçoit quand on essaye de la décortiquer qu'elle ne marche pas. Et souvent, ce que certains physiciens, évidemment, utilisent le mot d'autres univers, mais c'est une expression un peu exagérée pour parler d'autres parties très lointaines de notre univers, difficilement accessibles, mais toujours un petit peu accessibles, parce que sinon, il n'y a aucune influence ni nous, de nous sur eux, ni d'eux sur nous, et encore une fois, ce n'est pas du domaine de la physique. Bon, il y a plein de choses à dire, mais je préfère laisser ma parole.
Alors, justement, la question, c'est est-ce que ça a un sens de parler du début et de la fin de l'univers ? Alors, Roland ?
Ce que j'ajouterais comme précision à ce qui a déjà été dit,
oui,
c'est qu'effectivement, il y a l'univers qui serait considéré comme l'ensemble de tous les événements, mais en réalité, on pourrait rajouter un adjectif à univers, appelé univers observable, l'ensemble des choses dont on a reçu de l'information ici et maintenant. Donc, pour l'instant, on pense cet univers observable comme un sous-ensemble de l'univers. Il y aura encore des choses à dire autour de ça, mais imaginons que l'univers observable, l'ensemble des choses, l'ensemble des éléments dont j'ai reçu de l'information, soit un sous-ensemble de quelque chose de plus grand qui serait l'univers, et je n'ai pas accès à toutes ces parties-là, parce que l'information, pour me parvenir, elle emprunte au mieux la voie la plus rapide possible, celle de la lumière, ou celle des ondes gravitationnelles, ou celle de ce que vous voulez, qui se propage à la vitesse invariante par changement de référentiel, qui se trouve être 300 000 km par seconde dans le vide, la vitesse de la lumière. Vous avez donc un ensemble de données à partir desquelles vous allez essayer de reconstruire, de bâtir un modèle qui décrit ça. Alors, ça va faire un univers modèle. Donc, il y aurait l'univers observable et le modèle qui va décrire le modèle mathématique, par exemple la structure mathématique qui va décrire l'espace-temps tel que vous pouvez essayer de le concevoir à partir des observations que vous avez menées. Donc il y a trois choses. L'univers modèle qui décrit l'observable. Mais l'univers modèle peut des fois parler de régions de l'espace-temps qui sont évidemment l'univers observable. C'est même pour ça qu'il est construit, pour rendre compte de cet univers observable, mais il peut parler de régions de l'espace-temps qui sont en dehors de l'univers observable. Par exemple, l'univers observable, il est forcément fini, c'est l'ensemble des événements qui me sont parvenus depuis que des événements ont été émis dans l'univers. Et ça fait un certain volume très grand, mais qui n'est pas infini. Maintenant, vous pourriez décider que pour décrire cet univers observable, votre modèle mathématique, ce sera, par exemple, un espace infini, qui va rendre compte de ce que vous voyez, mais qui, du coup, ce que vous voyez étant fini, vous avez utilisé un modèle infini pour décrire probablement assez bien, vous pensez assez bien, ce qui est observable et qui est fini. Et donc, vous allez commencer à parler d'éléments qui ne sont plus dans la zone observable. Donc ensuite, la question, c'est ensuite, est-ce qu'on peut reconstruire, à partir de cette modélisation, le passé de l'univers, de ce que nous observons, le passé de l'univers observable ? Alors maintenant, l'univers observable, il a une certaine extension. Il y a 1 milliard d'années, il avait une extension différente qu'on pense être plus petite parce qu'on pense que l'univers est en expansion. Et dans le futur, il sera plus grand parce qu'il est encore en expansion. Et donc, on peut essayer de décrire maintenant quel sera le volume observable, toujours se placer du point de l'observateur, même hypothétique. Là, il y en a. Il y a 1 milliard d'années, il y avait la Terre. Pas d'observateur au sens humain, sensible comme nous, peut-être. Des animaux sensibles, mais pas peut-être conscients, avec des instruments. Il y a 10 milliards d'années, peut-être, y en avait-il ailleurs dans l'univers, mais en tout cas, sur Terre, évidemment, rien du tout. La Terre n'existait même pas. Donc, essayer de, même avec un hypothétique observateur, essayer de reconstruire ce qu'il aurait vu à ces époques anciennes. Et donc, à un moment donné, cette reconstruction va éventuellement achoper, pour les raisons qui ont été dites, c'est-à-dire essentiellement nos théories physiques pour décrire les états de la matière dans ces états, dans ces passés très anciens, ne sont plus capables de décrire la matière telle qu'on l'imagine, très dense, très chaude, très turbulente d'une certaine façon, et qui échappe à nos moyens d'investigation ou à nos théories physiques. Et puis dans le futur lointain, de l'autre côté, maintenant qu'on a quelque chose qui est un modèle qui décrit l'univers tel qu'on l'observe, on dit maintenant on va essayer de prolonger ce modèle, voir ce qu'il nous dit dans le futur lointain. Il nous raconte des choses, mais qui sont évidemment sujette à caution. Peut-être que le modèle n'est pas la bonne description ultime de l'univers observable, et peut-être que ces choses, elles vont évoluer différemment de ce que l'on pense à partir du modèle qui est considéré comme le bon modèle ou le meilleur modèle, le plus cohérent actuellement, cohérent entre ce que l'on voit et ce que l'on sait de la physique d'ici et maintenant, physique qui est construite essentiellement en laboratoire, avec l'hypothèse implicite que la physique que nous avons élaborée ici et maintenant est valable dans un passé lointain et dans des ailleurs, dans des distances éventuellement lointaines d'un passé lointain, et dans le futur, dans le temps et dans l'espace. Donc il y a toute une gamme de, comment dire, d'hypothèses qui sont menées, et je pense qu'il faut garder aussi à l'idée cette idée qu'on est ici et maintenant et qu'on reçoit de l'information qui n'est pas l'information de tout l'univers, mais d'un sous-ensemble, et pire encore, on reçoit de l'information de ce qui s'appelle le cône de lumière. Ça nous vient essentiellement par la lumière. Il y a des ondes gravitationnelles maintenant qui nous parlent. C'est super, ça ne peut qu'améliorer notre compréhension de l'univers. Il y a quelques particules qui nous parviennent moins rapides que la lumière. Et donc, ça nous vient d'une structure. C'est comme si vous aviez une sphère, alors en l'occurrence, c'est un cône, dont vous avez de l'information sur la surface du cône, et vous allez essayer, à partir de cette information de surface, de reconstruire le volume du cône. Et donc, on voit, parce qu'on n'a pas toute l'information en volume, mais seulement sur la surface du cône, sur le cône de lumière, qu'on a éventuellement plusieurs possibilités de description de la même chose avec une information qui n'est pas complète. Un peu comme quand je regarde ici, ma description de l'univers de là où je suis en regardant comme ça, c'est je suis dans un monde qui est infiniment rempli de gens qui me regardent et jusqu'à l'horizon du monde. L'autre solution, ça c'est un rêve, et là, ça c'est compatible avec ce que je vois. L'autre solution, c'est que ce n'est pas du tout infini, ça s'arrête là-bas, il y a un mur, et derrière, il y a le grand rien. Il y a des monstres, il y a un truc spécial, il n'y a plus rien.
Donc une région qu'on exactement. Ne peut pas appréhender.
Je ne vois que l'univers que je peux observer et j'essaie d'en faire une description aussi plausible que possible et de remonter ensuite dans le passé pour décrire ce qu'un observateur hypothétique aurait vu à ces époques anciennes ou ce que verra cet observateur dans un futur lointain. Et donc il faut bien réaliser cette chose-là et que cette reconstruction se fait sur un modèle qui repose sur des hypothèses et qu'éventuellement ces hypothèses peuvent s'avérer inappropriées dans quelques années.
Il ne faut pas hésiter justement en tant que scientifique à dire on n'a pas les moyens d'appréhender cette région-là, donc
une manière,
on ne peut pas se prononcer.
Il y a une manière de mur du passé et peut-être du mur du futur, au sens au-delà d'un certain temps, peut-être qu'on sera bien en peine de décrire, on peut donner des indications, il va se passer des choses qui nous échappent peut-être maintenant parce que notre physique est incomplète, et dans le passé, ça c'est tout à fait, disons, certain, en ce sens que le modèle actuel de l'univers en expansion, dit modèle à Big Bang, nous dit que dans le passé, l'univers était plus dense et plus chaud, et il a peut-être été si dense et si chaud qu'il est passé par des phases que notre physique, nous la savons actuellement incapable de décrire. Et donc, et à partir de cette mur du passé, alors on peut dire des choses. La physique, les physiciens ne sont pas complètement manchots ou incompétents là-dessus, mais le statut de ce qu'ils racontent change. Ça passe d'un modèle, disons, éduqué, cohérent, avec ce qu'on voit actuellement, on peut dire que c'est le modèle ultime, et on arrive dans des choses qui sont déjà plus spéculatives, qui partent de la science et qui vont vers des choses plus spéculatives, la science-fiction, d'une certaine façon, arrivant de l'autre côté de l'imagination pure, et genre, on va pas faire que de l'imagination pure, c'est pas assez intéressant, il faut se contraindre, et on va prendre un certain nombre de contraintes qui va nous permettre d'avoir une narration intéressante.
Mais ce qui est important, c'est d'être conscient que le statut de ces deux descriptions ne sont pas les mêmes.
Exactement. Sont pas les mêmes, je dirais, science et science-fiction, ça paraît presque évident, mais même le statut de ce qu'on décrit comme scientifique, à un moment donné, le statut des descriptions, je remonte, je vous raconte ce qui s'est passé il y a 1 milliard d'années, il y a 10 milliards d'années, tout ça, bon, on a une certaine confiance dans ce qu'on raconte, c'est pas forcément l'ultime possibilité, mais on a une certaine confiance, 13,8 milliards d'années, tout va bien, un peu 380 000 ans de plus, jusque là tout va bien, 3 minutes de plus, donc 380 000 ans, c'est une époque où l'univers était opaque à la lumière. 3 minutes de plus, la nucléosynthèse, formation des premiers noyaux dans l'univers. OK, là, on peut dire des choses. Une seconde ou deux de plus, bon, d'accord. On va commencer à discuter. Il faut être conscient de ces empilements de durées successives. Alors, il y aurait, bien sûr, bon, Marc nous a dit plusieurs fois, donc, mais il y a ces empilements d'événements qui ont une certaine durée dans un cadre particulier. Et ces durées se raccourcissent incroyablement. On peut faire une sorte d'histoire et à un moment donné, c'est embêtant. Mais c'est un peu comme dans une scène de crime, hein, quand on veut reconstituer l'emploi du temps. La victime est là avec le couteau dans le dos et ça pisse le sang. Il y a des traces de pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux lignes d'univers qui se sont croisées, celle de la victime et celle de l'assassin. Et on essaie de reconstituer les deux de sorte qu'on essaie de comprendre où est l'assassin pour le retrouver et pourquoi la victime en est arrivée à être dans la situation actuelle.
Alors, est-ce que, Raphaël, la physique des particules va nous permettre d'aller plus loin dans cette investigation, puisqu'on reconstitue, par exemple, au CERN, les conditions qui avaient cours au tout début
Ouais.
De l'univers.
Oui, oui, mais Roland l'a dit, hein, tout ça, enfin, le modèle du Big Bang, il repose essentiellement, enfin, en grande partie sur la physique des particules, c'est-à-dire que on remonte le temps, à un moment il n'y avait que des particules, et c'est la connaissance qu'on a profonde de la façon qu'elles ont d'interagir les unes entre elles qui nous permet de continuer à remonter le temps et à imaginer ce qui se passait avant. Et moi j'ai bien aimé j'ai l'impression qu'on est parti du plus planant ou plus pragmatique, et c'est très bien. Et c'est très bien. Et je vais peut-être jouer le rôle du plus pragmatique.
Sans encore faire référence à la science-fiction, hein.
Oui, on pourra. Et moi, le mot-clé, tu l'as répété, enfin, vous l'avez tous les trois répété plein de fois, c'est imagination. C'est-à-dire qu'à un moment, dans tous ces scénarios physiques, il y a des choses qu'on sait. On peut revenir sur les 13,8 milliards d'années, ça c'est quelque chose qu'on sait, mais dont ce que ça veut dire exactement n'est pas si simple que ça. Et puis il y a des choses à un moment qu'on ne sait pas et on est obligé d'extrapoler. Donc quand je dis on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'évidence expérimentale en observant l'univers de ce qui s'est exactement passé à ces époques-là. Je disais la nucléosynthèse, il y a des moments où on sait précisément ce qui s'est passé. On a des signaux, l'univers nous a laissé des signaux de cette époque-là qui nous permettent de savoir ce qui s'est passé. Mais on bute toujours, c'est ce que tu disais Marc, à un moment sur un temps dans à ce moment, enfin, j'ai du mal avec le mot temps, et puis même dès le début, Gérard, tu. Voilà. À un moment, le temps est plus censé exister. Pardon. Et peut-être pour vous donner donc, encore une fois, je vais jouer le rôle du plus pragmatique. Quand on dit 13,8 milliards d'années, une année, c'est quoi? Une année, c'est la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, à un moment, dans le scénario du Big Bang, quand on remonte le temps, cette mesure de temps, elle n'existait plus. La Terre n'existait pas et elle ne tournait pas autour du Soleil. Et donc, l'année n'existait pas.
Alors, Raphaël, peut-être il faut parler en énergie.
En énergie, en temps, c'est lié. Mais, et donc, plus on remonte dans le temps, plus toute mesure de temps qu'on peut imaginer, jusqu'aux pulsations atomiques qui nous donnent les mesures de temps les plus précises qu'on a aujourd'hui, les atomes, à un moment, n'existaient pas. Et donc, toutes nos échelles de temps auxquelles on peut penser, quand on remonte dans l'histoire vers le Big Bang, elles n'existaient pas. Et in fine, la mécanique quantique nous dit, c'est l'ère de Planck, que même à un moment, même le temps tel qu'on le met dans nos équations, le T, il n'existe même plus. Donc c'est... Oui, mais moi, tu vois, Gérard, quand tu dis on peut imaginer, moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à imaginer un monde dans lequel il n'y a pas de temps, quoi. Dès que j'essaye de l'imaginer, je me heurte. Qu'est-ce qui se passe après? Non, je n'ai pas le droit parce que le temps n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe avant? Donc moi, j'y arrive pas. Il y a peut-être des esprits supérieurs qui y arrivent, mais moi, j'ai un mal incroyable.
Oui, je vais juste dire un petit mot. C'est que dans notre univers, la physique quantique implique par le principe d'incertitude qu'il y ait des particules virtuelles. Bon, c'est absolument inobservable. En revanche, ce qu'on peut observer au moyen de procédés, c'est l'énergie du vide quantique. Il y a le phénomène Unruh, et puis il y a l'autre des années 50 dont le nom m'échappe là. Casimir, absolument. Bon, qui confirme qu'il y a de l'énergie dans le vide quantique. Mais là,
on va perdre toute l'audience.
Je dois dire que je n'ai pas branché mon compteur électrique dessus. Même si, mais ces particules virtuelles, par définition, on ne peut pas les observer. Donc il y a, je dirais, du certain dans la certitude et de l'inobservable dans notre univers.
Ouais, mais si tu veux, moi qui viens du réel, pour moi, une particule virtuelle, ça ne peut exister que pendant un laps de temps. Ah ben non, ça marche pas, j'ai dit temps. Non,
mais en dessous du temps, ce qui le rendrait observable. Et sur une distance, sur une longueur, en dessous de la longueur qui la rendrait observable.
Je crois que les termes particules virtuelles veulent bien dire ce qu'ils veulent dire, parce que ce n'est pas vraiment une particule. Et donc, on l'appelle quand même particule. Et en fait, si vous voulez, quand on veut décrire ce genre de choses, quand la matière est dans cet état, on fait appel à une branche de la physique qui s'appelle la théorie quantique des champs, sur laquelle se fonde la physique des particules. Et cette théorie quantique de champs, finalement, elle nous dit que la notion de particule disparaît. C'est-à-dire, au lieu de décrire la matière en termes de champs, en termes de particules, on la décrit en termes de champs qui sont comme la surface de l'eau qui occupe tout l'espace-temps, finalement. Et de temps en temps, ce champ peut être excité, comme la surface de l'eau peut être excitée. Et si la surface de l'eau est excitée d'une certaine manière, on va identifier ce qu'on va appeler des vagues. Et c'est pareil, quand le champ quantique qui occupe l'univers est excité d'une certaine façon, il se trouve qu'il y a des excitations qu'on peut localiser, qu'on peut appeler particules. Et dans notre monde dans lequel on vit, on est toujours confronté à des champs quantiques qui sont excités d'une façon toujours un peu la même, qui correspond aux particules. Et c'est pour ça qu'on peut absolument décrire notre univers tel qu'il est là, comme s'il était fait de particules, et ça marche très bien. Mais quand le champ quantique est dans ces états où il y a beaucoup d'énergie, etc., il peut être dans des états où il est absolument impossible de le décrire en termes de particules. Alors, pour certains états qui sont proches du nôtre, on parle de particules virtuelles, et déjà, c'est un terme qui ne fonctionne pas très bien. Mais il y a des états où on ne peut absolument plus parler de particules, où le champ a des excitations tellement bizarres dans l'espace-temps à quatre dimensions qu'on ne peut plus dire c'est des particules, ni même des particules virtuelles. On est obligé d'avoir une description en termes de champ quantique. Et il y a un état, par exemple, qu'on va appeler le vide quantique. Et c'est vrai que quand on mesure l'énergie de ce vide quantique, on ne peut pas mesurer l'énergie d'un état quantique. Mais ce qu'on peut, c'est mesurer la différence d'énergie entre deux états. Et justement, c'est pour ça que j'ai sursauté quand vous avez parlé de l'état de l'effet Casimir. Parce que c'est vrai que dans la littérature, on voit beaucoup de gens qui disent l'effet Casimir, c'est la manifestation de l'énergie du vide quantique. Mais c'est complètement faux. C'est la manifestation de la différence d'énergie entre le vide quantique et un autre état. Et c'est pas du tout la même chose. Parce que si vous calculez aujourd'hui dans la théorie quantique l'énergie du vide quantique, vous trouvez infini. Vous trouvez une densité d'univers infini. Ça voudrait dire que dans chaque petit morceau d'espace ou d'espace-temps, il y a une densité d'énergie infinie. Ça n'a aucun sens, parce que si c'était vrai, ça voudrait dire que l'univers se serait déjà recontracté, etc. Donc, on sait que la théorie ne marche pas à ce moment-là. On sait que la théorie ne fonctionne pas. Et ça veut simplement dire, parce que qu'est-ce que c'est que l'énergie, finalement ? L'énergie, on la définit comme ce qui est la source de gravitation. C'est-à-dire, vous prenez les équations de la relativité générale, elles vous disent la courbure de l'espace-temps qui représente la gravitation est donnée par une certaine fonction de la densité d'énergie, en gros. Je simplifie un peu. Donc la densité d'énergie, c'est ce qui courbe l'espace-temps. Si elle était infinie, la courbure serait infinie et on ne serait pas là pour en parler. Donc il faut être précautionneux et cette notion d'énergie... On n'arrive pas à la définir, finalement, en théorie quantique des champs. On arrive très bien à définir la différence d'énergie entre deux états. Et ça, quand, par exemple, on va dire la Terre représente de l'énergie qui va attirer la Lune ou qui va courber l'espace-temps de telle manière que la Lune décrive son orbite, on parle de quoi ? On parle de l'énergie de l'état quantique avec la Terre dedans moins l'énergie de l'état quantique qui serait le vide. Et ça, c'est parfaitement défini. Et cette difficulté qu'on a à définir l'énergie d'un état quantique, c'est la manifestation de quelque chose de fondamental dans notre physique, d'une grande crise, c'est qu'on n'arrive pas à mettre ensemble la relativité générale, disons la gravitation, l'espace-temps, la cosmologie, et la physique quantique. Et quand on parlait de la barrière de Planck tout à l'heure dans le passé, ce qu'on ne sait plus décrire, c'est parce que justement on pense qu'à la fois il y a une gravitation qui joue un rôle très intense dans l'univers primordial et qu'à la fois il y a des effets quantiques qui sont très intenses aussi parce que la température, la densité sont grandes. Et aujourd'hui on n'a pas de théorie. On cherche une théorie comme ça de gravité quantique. C'est très amusant cette recherche. Enfin, moi j'ai passé des années là-dessus. C'est passionnant, mais on n'a pas vraiment une théorie. Et ce qu'on sait, la seule chose qu'on sait, c'est que beaucoup des notions que nous avons aujourd'hui, la notion de particule, la notion d'espace, la notion de temps, la notion de matière bien localisée et beaucoup, sans doute beaucoup d'autres notions qui nous sont familières, ne s'appliquent pas du tout et qu'on est obligé de changer de point de vue sur notre vision du monde et c'est ça qui est difficile. Et on ne sait pas exactement de quelle manière on doit changer le point de vue. Il y a des tas d'idées qui circulent, très intéressantes, mais on n'a aucune confirmation aujourd'hui.
Non, si vous permettez, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en disant, mais peut-être trop vite, qu'il fallait énormément se méfier des mots. Hein, parce que les mots ont tendance, dans le courant, sûrement. Donc aucun des mots, si vous voulez, que j'ai pu utiliser ne doit être pris au pied de la lettre. Alors si on revient quand même à cet effet Casimir qui est assez intéressant, Bon, c'est bien d'une différence d'énergie qu'il s'agit entre ce qu'on mesure entre deux plaques et l'extérieur.
Vous le savez, mais il y a beaucoup de gens qui semblent ne pas le savoir, y compris des gens qui publient des papiers dans
Alors les justement,
c'est pour ça que j'ai écrit avec Farabo un bouquin et que du haut de mon ignorance, j'essaye de m'exprimer.
Voilà. Si on peut dire que, au final, aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas répondre à la question de l'avant de l'univers ni de... Mais cette barrière qui nous embête en physique peut quand même être bouleversée avec la science-fiction. Comment les récits de science-fiction abordent l'avant et le destin de l'univers ?
Ben, il s'éloigne.
Vous savez, comme j'ai commencé par le dire, bien que je connaisse un petit peu la science-fiction, pour la fréquenter depuis 70 ans, alors en avoir publié beaucoup et écrit moi-même, il n'y a pas grand-chose dans la science-fiction sur l'univers avant et après, ou bien il y a la reprise d'idées qui ont été émises de façon assez classique par des physiciens, pas celles que j'exposais tout à l'heure, du moins à ma connaissance. Enfin, par exemple, l'idée de rebond d'univers antérieur qui se recontracterait, enfin, qui rebondirait, etc., ce qui pose un problème d'entropie. Enfin, je laisse ça aux spécialistes. Mais non, c'est pas un thème
qui est abordé.
Les auteurs, y compris très scientifiques, parce qu'il y a d'excellents physiciens, et certains de mes amis, plutôt anglo-saxons d'ailleurs parmi eux, font très attention avec ce sujet.
En fait, si on admet ce qu'on sait aujourd'hui, donc tout le scénario du Big Bang et tout ça, donc si l'auteur de science-fiction admet cette partie-là, et on l'a vu, c'est déjà très compliqué et il y a déjà beaucoup d'imagination dedans. Et donc si on admet ça, c'est très difficile de d'écrire une histoire qui se passe là-dedans, quoi, qui utilise le Big Bang. Donc il y a un exemple dans l'intitulé de notre table ronde qui est Paul Anderson dans Taux Zéro. Et la seule chose qui fait, qui ressemble un petit peu à ça, donc on part d'aujourd'hui, il part dans un vaisseau spatial qui va de plus en plus vite, donc qui se rapproche de plus en plus de la vitesse de la lumière.
Et donc on applique la relativité générale qui dit que la seule chose
qu'il utilise qui est un peu liée avec l'avant et l'après du Big Bang, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il part dans une hypothèse de Big Crunch qui n'est pas ce qu'on pense aujourd'hui qui va se passer. Aujourd'hui, on pense que l'univers va se diluer à l'infini, mais ça aurait pu être autrement. Les mesures cosmologiques auraient pu ne pas être ce qu'elles sont et on aurait pu imaginer un univers en pulsation. Donc il se passe dans cette hypothèse-là et les gens dans leur vaisseau spatial vivent le Big Crunch. Alors comment ils y survivent, ça j'ai pas bien compris, parce que à un moment il y a plus d'atomes, il y a plus rien, donc il y a plus de gens a priori. Mais donc ils vivent ce Big Crunch, ils revoient le second Big Bang apparaître et ils se finissent par se réinstaller sur une petite planète tranquille dans un deuxième univers qui n'est que la succession du précédent. Mais c'est un peu le seul exemple que je connais qui utilise vraiment Big Bang.
Il y a le dernier restaurant à la fin du monde aussi, de Douglas Adams.
Je vais citer un auteur australien très important, Greg Egan, qui a une considérable culture scientifique. Mais je ne connais pas, je ne vois pas de texte directement apparenté à ça de sa part. Mais ben, il est tout à fait capable d'avoir touché au sujet.
Et il y a le dernier restaurant avant la fin du monde de Douglas Adams où là, et on assiste, on peut manger des trucs en regardant la fin de l'univers et en vivant l'univers suivant. Bon, évidemment, là, c'est parodique.
C'est la science-fiction
de la science-fiction, mais c'est vraiment rigolo.
Ouais, mais t'as raison, si on veut vraiment mettre en scène quelque chose, on est obligé de s'éloigner du scénario réel d'une façon ou d'une autre, quoi.
C'est-à-dire que si tu écris un livre, un récit, par définition, le récit, il doit avoir un cours temporel. Tu as besoin du temps. Donc, faire un récit en parlant de quelque chose où il n'y a pas de temps, c'est presque contradictoire. Et là, tu t'aperçois que finalement, les physiciens ont peut-être été... Voilà, un récit intemporel, c'est presque un oxymoron. Et donc, les physiciens ont un peu été plus loin en essayant de conceptualiser ce monde sans temps, c'est-à-dire un monde figé. Et il y a une manière de voir l'espace-temps, de voir l'univers, qui s'appelle l'univers bloc. Moi, je dis tout de suite, c'est la manière dont moi je le vois. Alors, il y a des gens qui refusent absolument. Mais
Einstein.
Einstein voyait ça comme un univers bloc.
Alors,
évidemment,
l'univers bloc.
Beaucoup de gens... l'univers bloc, c'est de dire que tous les événements qui se sont, que nous on considère comme passé, qu'on considère comme présent et qu'on considère comme futur, existent de la même manière. Ils sont tous existants dans l'espace-temps, comme des points de l'espace-temps. La seule différence, c'est qu'il y en a certains auxquels on a accès, comme le disait Roland, et qui vont constituer une partie qui s'appelle l'univers observable. Mais ce n'est pas parce que nous, on a la capacité de les observer via les rayons lumineux ou toute autre information, qu'ils ont un statut, disons, ontologique, existentiel, différent des autres. Donc, selon cette conception, le passé, le présent, le futur existent exactement de la même manière. Et ce qui me pousse dans cette voie, c'est que si on essaye d'avoir une autre vision des choses, ben on a beaucoup de mal parce qu'on s'aperçoit qu'en relativité, dans l'espace-temps, la notion de présent, elle n'existe pas. Elle n'est pas définie. Donc si on voulait dire seul le présent existe, ça poserait deux problèmes parce que de toute façon, le présent, on n'en a pas connaissance. C'est-à-dire quand moi je vous vois ou quand vous m'entendez pas dans le présent, mais vous entendez les paroles que j'ai prononcées une fraction de seconde avant. Donc si vous pensez... C'est une position philosophique qui s'appelle le présentisme. C'est penser que seuls les événements présents existent. Dans ce cas-là, vous avez une conception du monde difficile parce que rien de ce qui existe, vous ne pouvez le connaître et rien de ce que vous connaissez n'existe. Donc, cette conception, moi, me gêne.
Donc, cette notion suppose que la vitesse de la lumière soit infinie, que la lumière se propage de manière instantanée.
On sait que le monde n'est pas comme ça. Donc,
voilà.
Si tu veux,
donc
si tu...
du coup, on est donc, en si contradiction.
À l'époque de Newton, effectivement, cette position avait une cohérence qu'elle n'a pas aujourd'hui. Alors, l'autre chose, c'est de dire seuls existent les événements passés. Mais le problème, c'est que les événements qui, pour moi, sont dans mon passé, c'est-à-dire sur lesquels je peux avoir de l'information, ce n'est pas les mêmes que ceux de Roland. Et ce n'est pas les mêmes que ceux de notre dernier ami. Donc, si je dis « seul le passé existe », ça veut dire que ce qui existe, de mon point de vue, n'est pas du tout la même chose que ce qui existe du point de vue de Roland. C'est un peu gênant. C'est une vision de l'existence qui est totalement subjective et personnelle et qui ne va pas s'accorder et qui donc pour la physique qui veut être objective ne convient pas. Et donc finalement la seule conception rationnelle du point de vue de la relativité, donc comme le disait Einstein, c'est celle de l'univers bloc. Tout existe, les événements futurs aussi bien que passés. Et dans ce cas-là, le grand mystère, c'est pourquoi j'ai connaissance des événements du passé et pas du futur. C'est-à-dire pourquoi il y a de l'information qui me vient du passé et pas d'information qui me vient du futur. Pourquoi ma mémoire se souvient, plus ou moins bien, de ce qui m'est arrivé hier ou l'année dernière, et pourquoi je ne me souviens pas de ce qui va m'arriver demain? La physique ne donne pas de réponse à cette question. La neurologie, la psychologie non plus, pour autant que je sache. Et pour moi, le grand mystère, il est là. C'est un des plus grands mystères. Pourquoi je me souviens de ce qui m'est arrivé hier et pourquoi je ne me souviens pas de ce qui va m'arriver demain? Si j'y repense dans un an, je m'apercevrai que ce qui m'est arrivé hier et ce qui va m'arriver demain, bah, ça a exactement le même statut. Il n'y a aucune différence et tout. Sauf qu'aujourd'hui, je considère que l'un existe et l'autre n'existe pas. Bon, voilà, ça, c'est pour vous.
Il est intéressant, je ne dirais pas amusant, de rappeler que cet univers bloc, Albert Einstein l'évoquait dans une lettre de condoléances. Un de ses amis était mort et il écrit à sa femme ou un de ses amis que de toute façon dans l'univers bloc ça n'a aucune espèce d'importance, nous sommes tous
Alors la question que
juste pour rebondir là-dessus,
oui,
quand même,
parce
que je vais faire une réflexion un peu personnelle, c'est que moi je fais de la relativité, de la cosmologie depuis 40 ans et donc cette conception du monde, elle est vraiment devenue la mienne. Et c'est-à-dire que la lettre d'Einstein, je la comprends vraiment au sens de la lettre. C'est-à-dire que ça donne effectivement une vision des événements, des événements difficiles qu'on peut avoir. Ça donne, je ne dirais pas une distance, mais ça donne une manière de, disons, d'encaisser les chocs et de vivre sa vie qui, à mon avis, m'a beaucoup aidé. Voilà.
Oui, mais alors, en même temps, est-ce que c'est compatible, c'est une question, hein, est-ce que c'est compatible avec l'équation de Schrödinger-Born qui propose toute une catégorie de possibles avec des probabilités en général inégales? On pourrait se lancer sur la théorie des Everett, mais enfin, c'est encore une autre affaire. Et est-ce que cet univers bloc est compatible avec la partie de la physique quantique qui, d'une certaine manière, indique que l'avenir n'est pas écrit, enfin, en tout cas dans des circonstances expérimentales très précises?
C'est évidemment la bonne question. Bravo. Mais il y a plusieurs manières d'y répondre. Il y a la manière, justement, un peu d'Everett, enfin, qui aujourd'hui a été modernisée sous ce qu'on appelle la décohérence. Et finalement, si vous avez une vision, justement, décohérente, d'une certaine manière, vous faites disparaître le déterminisme. C'est-à-dire, cet indéterminisme que vous mentionnez, qui est effectivement, d'une certaine manière, justement, pas dans l'équation de Schrödinger, mais dans le processus de la mesure qui viole l'équation de Schrödinger. Bon, c'est un peu technique, excusez-moi, mais quand on est justement dans une vision décohérente, au lieu de s'intéresser à un système, on prend compte du fait qu'il y a une intrication, qui est un mot quantique effectivement, entre le système que l'on observe, l'observateur lui-même, et puis tout l'univers, et bon, on s'aperçoit qu'on peut avoir une description qui est parfaitement déterministe, d'une certaine manière. Ça, c'est une des réponses à ce problème. Il y a une deuxième réponse, je vais aller vite quand même, mais c'est qui a été proposée par le physicien, je ne sais plus son prénom, George Ellis, qui est en Afrique du Sud, qui est ce qu'il appelle, je crois, l'univers bloc, l'univers bloc quantique. Enfin, c'est pas ce mot exact, mais c'est une petite modification où il part de l'idée d'univers bloc en permettant justement un certain déterminisme dans l'avenir. Enfin, j'ai pas très bien compris, mais en tout cas, c'est exactement pour répondre à cette question qu'il a introduit une vision modifiée. Bon, moi, c'est pas tout à fait ça. Voilà.
Si Nicolas Guisin, que vous connaissez probablement, Nicolas Guisin, le physicien. S'il était à ma place, il considère que l'univers est complètement stochastique.
Vous savez.
Et j'avais une conversation, d'ailleurs, à la suite d'une rencontre ici même, avec Thibaut Damour. Vous connaissez aussi probablement le point de vue.
Je ne suis pas d'accord avec sa vision.
On va lancer un challenge.
Ça, j'ai compris.
Le challenge, ça va être l'œuvre de science-fiction qui va avoir lieu dans un univers bloc. Et là, ça sera super. Mais avant, on peut quand même passer aux questions. Alors, comment ça se passe? Je pense que monsieur devant a levé la main en premier.
Merci.
Alors, allez-y, monsieur.
C'est pas une question, c'est une référence à un auteur anglais qui a écrit de la fiction sur la fin de l'univers et l'univers en rebond. Et il imagine une espèce extraterrestre qui est capable de se préparer au Big Crunch et de survivre au Big Crunch et de vivre le rebond. C'est Stephen Baxter. D'accord. Dans je ne sais plus quel cycle. Voilà.
D'accord. Bah, c'est super
important. Le pire, c'est que je risque de l'avoir publié, mais je ne me souviens absolument pas.
Mais dans ce domaine, il y a un travail de Penrose, Roger Penrose, qui n'est pas un auteur de science-fiction, mais qui est un physicien, qui propose une théorie, mais que moi je classe dans la science-fiction quand même, malgré tout mon respect pour Penrose, que je considère comme un des plus grands physiciens actuels, oui, vraiment un génie. Mais bon, cette théorie, je pense que c'est vraiment de la science-fiction. Et lui, il part d'une idée, quand on arrive dans l'univers futur, les particules vont se désintégrer, il n'y aura plus que des trous noirs qui vont eux-mêmes se désintégrer. Bon, bref, d'une certaine manière, il n'y aura plus que du rayonnement. Il se trouve que ce rayonnement a une propriété particulière qui fait qu'il n'y a aucun moyen avec du rayonnement de définir des distances, etc. Donc, on est dans un univers où finalement la métrique disparaît, il n'y a plus qu'une métrique conforme. Je m'excuse, c'est encore technique. Mais il se trouve qu'au début de l'univers, on est dans une situation un peu pareille. Et ce que fait Penrose, c'est qu'il fait une espèce de lien entre le futur lointain de l'univers et le début de notre univers tel qu'il est décrit par les modèles Big Bang, en supposant qu'il y a une espèce de cycle comme ça, qui est intéressant. Comme l'idée est intéressante parce que c'est pas le cycle de rebond dont déjà il y avait l'idée il y a un siècle. Et c'est plus près de cette idée, c'est pour ça que j'y pense. Et son idée, c'est que d'un cycle d'univers à l'autre, il pourrait exister une certaine information qui franchisse ceci et qui pourrait se manifester. Donc il a fait un article où il dirait on pourrait voir ça comme des cercles qui apparaîtraient dans le rayonnement de fond diffus cosmologique. Bon, enfin, personne
n'y croit.
Ce que
l'on n'a pas vu dans les données, notamment.
On pourrait considérer ça, en tout cas, comme un bon récit de science-fiction.
Parce qu'il faut ajouter que dans le cadre de la physique quantique actuelle, l'information ne peut pas se perdre.
C'est ce qu'on appelle l'unitarité. Et c'est à l'origine d'un problème qui tourmente beaucoup les physiciens.
On va passer,
qui s'appelle ouais. L'entropie et l'information des trous noirs. Bon, c'est autre
monsieur, chose. Je pense que... Voilà, allez-y.
Ma question concerne comment pourrait-on atteindre sonder les densités de Planck, les énergies de Planck. Quelle taille devrait faire le LHC pour pouvoir sonder ces énergies? Ou autrement dit, si on avait accès à l'énergie produite par l'étoile de la mort dans Star Wars, est-ce qu'on pourrait sonder ces échelles-là?
Bonne question, dit Raphaël.
Non, c'est une bonne question. Il y a deux réponses possibles. Non, un des trucs qui serait génial de voir au LHC, mais même on espère éventuellement le voir dès le LHC actuel, hein, c'est pas, il n'y a pas besoin de plus, c'est les dimensions supplémentaires. Et si on voyait des dimensions supplémentaires, donc en fait on ne verrait pas les dimensions. Donc il y a l'idée que la gravité quantique ne peut exister que dans un nombre de dimensions qui est 11 ou 26, c'est ça ? C'est mathématique, hein, ça peut être que 11 et 26. Et il y a beaucoup de gens qui y croient. Et donc, on ne voit pas ces dimensions. Vous vivez dans un monde à 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps, et vous le savez. Et si on ne les voit pas, c'est l'idée qu'elles seraient toutes petites. Et donc, il y a un espoir qu'au LHC, il y a des particules de l'énergie, si tu veux, qui disparaissent dans ces dimensions supplémentaires. Alors ça, donc on met des limites au fur et à mesure qu'il augmente. Et ça nous donnerait déjà une information très intéressante, je pense, hein, sur ce qui se passe à l'échelle de Planck sans atteindre l'échelle de Planck.
Je pense qu'on a le temps de prendre encore une question.
Ici. Oui, donc bonjour. Du coup, là, on a beaucoup parlé de avant l'univers, du fait qu'il n'y avait pas d'espace-temps avant l'univers. Mais du coup, après l'univers, à toute fin, est-ce qu'on peut... si on rejette du coup la théorie du Big Crunch, si l'univers se dilue infiniment, est-ce que l'espace-temps peut disparaître comme ça de lui-même, ou alors est-ce qu'il peut continuer indéfiniment voilà.
J'ai bien suggéré que l'espace-temps disparaissait et qu'on se retrouvait avec toutes sortes de difficultés dans la situation initiale, et mon ami Marc n'est certainement pas d'accord.
Enfin, ça dépend ce qu'on appelle l'espace-temps. Parce qu'aujourd'hui, l'espace-temps, il est défini comme une structure géométrique qu'on appelle une variété, avec une propriété très précise qui est sa courbure. Et la courbure, on peut l'exprimer mathématiquement par la métrique aussi, ces deux choses qui sont liées l'une à l'autre. Et par exemple, dans l'hypothèse de Penrose, ce que dit Penrose, c'est que le contenu de l'univers va évoluer d'une telle manière qu'il n'y ait plus que du rayonnement, ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucun moyen de mesurer durée et distance, parce que si vous voulez, dans l'histoire d'un photon, pour un photon, la durée est toujours nulle. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un photon qui a été émis il y a 13 milliards d'années, pour lui, la durée qui s'est écoulée depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, c'est zéro. Donc ça veut dire qu'on arriverait, avec toute cette dilution, dans un état où il n'y a plus vraiment de métrique. Il n'y a plus que certains vestiges de la métrique qui s'appellent une structure conforme. Bon, là, c'est un peu technique encore, mais ça veut dire que l'espace-temps existe toujours comme cadre, parce qu'il y a encore ces photons, ils sont toujours là, ils se propagent et ils se propageront toujours. Mais ce cadre est dépourvu de toute propriété, devient de plus en plus sommaire et sans grand intérêt. Donc on est à peu près d'accord, non?
Dans ce sens d'ailleurs, je voudrais apporter une note épistémologique. C'est qu'il me semble, je parle sous la réserve là, de mes voisins, qu'il y a toute une partie de la physique mathématique qui s'est développée il y a une cinquantaine d'années, qui devient, par défaut d'expérimentation possible, de la métaphysique. Alors, pas de la métaphysique au sens des philosophes... qui devient métaphysique, c'est-à-dire que on aligne des concepts, on aligne des équations, mais on n'arrive pas à valider, hein, ni réfuter.
Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas un jour.
Je suis pas d'accord.
Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas un jour.
Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais par exemple,
des cordes, par exemple.
Ah ben la théorie des cordes, oui, mais c'est presque ça. Ça fait pas partie de la physique. Ça a été...
C'est bien ce que, non, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis.
Oui.
Non, mais je veux dire, ça a été une tentative. Bon, il y a encore des gens qui travaillent dessus, mais...
disons que c'est pas le même statut épistémologique. On est sur un.
Ouais, mais si vous prenez par exemple la théorie de la relativité générale ou la physique quantique, mais qui ont d'abord bénéficié. Parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la physique mathématique et le développement croisé, enfin plutôt parallèle et entrelacé de la physique et des mathématiques. C'est-à-dire, premièrement, la physique a bénéficié énormément des progrès des mathématiques à l'époque. Par exemple, la relativité générale a bénéficié de la géométrie riemannienne. Mais d'un autre côté, après la relativité générale, la géométrie différentielle, la topologie différentielle se sont développées chez les mathématiciens purs, comme des gens comme Cartan et d'autres, et beaucoup d'autres aussi à l'étranger, parce qu'il y a eu la relativité. Et la géométrie différentielle, par exemple, aujourd'hui, est une branche extrêmement développée des mathématiques et qu'on considère comme une branche des mathématiques pures, qui ne se serait jamais développée autant s'il n'y avait pas eu la relativité générale. Et pour les algèbres de von Neumann, les C étoiles algèbres, tout ça, toute cette branche qui est l'algèbre et la géométrie algébrique qui va avec, ça ne se serait jamais développé sans la physique quantique et la théorie quantique des champs. Donc, bon, alors, là, c'est vrai que... Et la théorie des cordes, c'est un bon exemple, parce que, justement, il y a eu tant de développement de ces mathématiques...
Pardon ? Oui, je pense que là...
Ah, c'est l'heure. Bon,
c'est la fin.
Mais bon, je finis la phrase quand même.
Ouais. Vas-y.
Non, juste pour finir la phrase. Il y a eu tant de développement de cette physique mathématique qui était très belle et extrêmement séduisante que les physiciens et les mathématiciens ont voulu pousser encore plus loin tout ça. Ils ont trouvé des mathématiques extraordinairement belles, entre guillemets, et ils ont voulu absolument en faire une théorie physique qui était la théorie des cordes. Et l'idée de la théorie des cordes, elle est fantastique au début. Bon, après, on s'est aperçu qu'on n'arrivait pas à en faire une théorie dont on arrivait à tirer des résultats. Et c'est un petit peu, ça s'est un petit peu éparpillé. Ça commence à tomber un peu en désuétude. Mais l'idée, il y avait un élan absolument extraordinaire. C'est des mathématiques qui étaient très belles et c'était la tendance un peu qui ressortait naturellement.
Bon. Bien, ben, on va rester sur la théorie des cordes. Merci à tous. Merci beaucoup.